sarà lume.
Vai maestre!
Lume, Thierry Chancogne, ladies and gentlemen.
Yes.
Coucou.
Salut, ça va?
Coucou vert. Alors, du coup, une petite introduction, c'est que, de manière assez étonnante, c'est vrai que les oreilles qui nous écoutent peuvent se dire, bon, Nevers, il est question d'anthroponymie. Nevers, pourquoi est-ce que Nevers est inhumain? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Nevers? Et la réponse est oui.
Ah oui, bien sûr, la réponse est oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais parce que c'est toi qui l'as choisi, donc je ne peux pas non plus. Voilà.
Et parce que Nevers, du coup, il y a deux composantes. Et donc, du coup, c'est le sens de cette émission qui est quand même très gourmande aujourd'hui. C'est qu'il y a nœud et que de l'autre côté, il y a vert. Donc, on va dire que là, c'est assez chargé, c'est assez dense. Donc, première question qui me vient à l'esprit, si on commence par nœud, c'est est-ce qu'il y a des nœuds à Nevers?
Ah oui, beaucoup, oui. Ça, c'est vraiment une sacrée ville de nœuds, ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est évident. Comme tu as proposé ce nom, je me suis renseigné. Le nid de Nevers est en fait plutôt lié à une origine hydronymique, figure-toi. Exactement. Bah oui, voilà. C'est une des choses que j'ai découvertes et qui nous lie un peu, voilà. Ouais. Voilà. Effectivement, la Neva russe, la Nive du Pays Basque sont liées à Nevers par cette racine comme ça qui serait indo-européenne, celtique, bon, on ne sait pas trop, mais qui indique effectivement qu'il y a par ici de l'eau. Et oui, évidemment. Bon, il y a la Loire, il y a l'Allier. Il y a la Nièvre, et effectivement, c'est un lieu de confluence. Alors, modeste, hein, c'est pas l'Amazonie, c'est pas Lyon non plus, hein, mais voilà. Donc,
parce que tu me dis déjà, ce point de départ-là, il est intéressant, parce qu'effectivement, le nœud, le marin, toi, tu es marin aussi, enfin, en tout cas, tu es fluvial, plutôt. Donc, il y a déjà une première cohérence, en fait, déjà, entre le nœud et le nava. Et d'ailleurs, chose aussi très curieuse, c'est que nava, en roumain, c'est aussi l'embarcation, en tout cas le navire.
Ouais. Le navire. Bah. Le navire, oui. Alors le nœud, ouais, nœud de huit, nœud de cabestan, nœud plat, etc. Oui, nœud de chaise.
Donc là, nous, on continue. Enfin, du coup, j'ai récupéré un bouquin qui était plutôt canadien. En fait, canadien, mais proposé par les lignes aériennes belges, Sabena. qui ont pris nos livres vers l'Europe. Et ça s'appelle « Les nœuds pratiques et décoratifs ». Et ça, du coup, ça commence à décrire, voilà, les définitions des composantes donc, du nœud. Ouais. Et là, on a le bout d'une corde et la partie qui fait le nœud. Et donc, on parle d'anse et on parle... Donc, on parle d'anse. L'anse est la partie de la corde qui se trouve entre les bouts.
Ouais.
Et donc, il est question de bout et de corde aussi.
Ouais. Alors, c'est, ça me fait penser à la petite histoire pour apprendre comment on fait un nœud de chaise. Quand tu veux faire un nœud de chaise chez les marins, tu prends une corde et tu fais une boucle. Et la boucle, le brin qui passe en dessous, c'est l'arbre qui remonte au-dessus. Et ensuite, t'as le puits. La boucle fait un puits. Alors le serpent sort du puits, tourne autour de l'arbre et re-rentre dans le puits. Et si tu prends la tête et la queue du serpent et l'arbre et que tu tires, et ben ça te fait une belle boucle. Voilà.
Mais comme un nœud gordien aussi.
Oui, alors, bah oui, alors bon, là, on se rappelle un peu aussi les histoires incroyables de nœuds dont parle Lacan, hein, au niveau de notre structure du rapport, on pourrait dire au réel, hein, comme ça, voilà, l'image, le symbolique et le dernier qui m'échappe. En tous les cas, c'est vrai que bon, alors tout ça, enfin, moi je trouve qu'on en a un peu parlé quand même de ces histoires de nœuds, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de tissus la fois précédente, hein, on a parlé du langage comme d'un tissu, notamment de la question de l'écriture comme un tissu qui tisserait des différences, la différence d'état, hein, on avait dit voilà l'espace, le temps. Moi j'avais insisté aussi sur les questions d'interpolation temporelle, hein, qu'il y aurait dans l'écriture et dans la lecture. Bon, là, on retrouve un peu ça avec cette histoire et même avec l'histoire du fleuve, hein, et même de la confluence. Hein. La confluence, c'est ça. C'est au fond un endroit où les flux, les tensions se mélange comme ça. Alors moi c'est vrai que j'étais pas trop quand on dit nœud, enfin moi j'étais plutôt dans le refus. Enfin j'étais plutôt dans la négation. C'est la marque du refus, quoi. Et par rapport à ça, moi ça m'a envoyé ailleurs. Et alors je vais te faire écouter quelque chose. J'espère que ça va passer. Tu vas me dire.
C'est la première vague de la mondialisation qui va produire une jeunesse uniformisée, écoutant partout la même musique et portant les mêmes pantalons dans le monde entier. Adorno a très tôt pris conscience de ce phénomène.
Je pense que tous les efforts pour allier protestation et pop musique, musique de divertissement, sont voués à l'échec. Cette musique a beau se donner une image moderniste, elle reste liée à sa dimension commerciale et appelle à la consommation. Toute tentative de lui conférer une autre fonction reste superficielle. Si quelqu'un prend la pause et pousse la chansonnette pour nous dire que la guerre au Vietnam est insupportable, c'est sa chanson que je trouve insupportable, car elle transforme l'horreur en produit de consommation. Il essaie d'en extirper des qualités commerciales.
Alors voilà, donc oui, le nœud, donc plutôt dans l'idée de la négation, dans la négativité, dans le refus, et évidemment, moi quand je pense à ça, je pense effectivement plutôt à l'école de Francfort, à Adorno. Alors je casse un peu l'ambiance, c'est pas super marrant.
On adore Adorno.
On adore nous, mais d'ailleurs tu sais que Adorno n'est pas son vrai nom, est un nom de village corse, hein, qu'il reprend comme une sorte de masque, hein, bon, et donc ça fait aussi que je suis un peu attaché à ce personnage, mais voilà la question de la négativité, du refus comme étant un ressort comme ça pour proposer quelque chose.
Mais alors, hein, bon, je refuse. Alors voilà, je préférerais ne pas aussi presque si on va
bien Bellevue. Bien sûr, oui, voilà. Bartleby. Bien sûr.
Et
oui, je préférerais ne pas.
Ensuite, on revient vers la baleine avec avec Moby Dick, quoi, peut-être avec le navire.
Oui, alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors j'ai indiqué aussi la dernière fois que l'appareillage hein, du navire, c'était le lieu où l'on prépare, hein, où l'on appareille le pareil, mais pour effectivement essayer d'aller vers le danger. Hein, et j'avais indiqué aussi la proximité du mot port, hein, ou port de la peau d'ailleurs, hein, c'est-à-dire le lieu des échanges et le lieu du péril, quoi. Hein, et voilà, en tous les cas, moi, nœud, c'est vrai que, bon, alors, il y a toutes ces symboliques du flux, hein, dont on a déjà parlé aussi, mais là, moi, j'indiquais plutôt la question de la négativité, c'est-à-dire, voilà, Adorno, hein, qui conteste la contestation, hein, voilà. Voilà, qui est toujours trop commercial, toujours trop lié à la puissance et en même temps cette façon comme ça de tuer le père, de tuer les pères pour tuer les vers pour entamer une proposition, voilà, une proposition qui est à la fois évidemment une quelque chose de positif, hein, voilà, qui est posé comme ça là et en même temps qui participe d'une négation qui se dresse contre. Alors c'est peut-être lié à des centres d'intérêt pour moi, mais je pense qu'il y a quand même ça peut être une grille de lecture en tous les cas pour une certaine proposition intellectuelle, langagière, artistique, tout ce qu'on veut, poétique, voilà. La question donc du nœud, non pas comme l'endroit où les choses se nouent, où les choses se tressent, où les choses se tissent, ouais, se mélangent, mais aussi où les choses s'articulent, c'est-à-dire se contrarie, hein, se différencie. Voilà, et donc c'est vrai qu'on a beaucoup insisté jusqu'à présent sur les questions de nœuds, de liens, c'est très beau évidemment, hein. C'est des figures très positives, très très solaires comme ça, mais l'articulation c'est aussi la contrariété, la négation, la destruction, l'opposition et un système comme ça de bipolarité, de tension entre effectivement un désir de fusion comme ça et puis une nécessaire opposition, un effet de réel qui fait que effectivement on est aussi séparés, quoi, voilà.
Ouais, bah voilà. Du coup voilà une nouvelle lecture d'Adorneux, on pourrait la du coup de désormais la
Adorné, c'est beau.
Adorné, oui, parce que Adorné, oui, c'est vrai, ouais, que c'est une très belle, c'est un très beau pied de nez, voilà. Et par ailleurs, du coup, si on continue dans l'histoire des idées, moi j'avais aussi, ça m'avait fait penser au noème, au neum aussi.
Ouais.
Et tu vois, par exemple, le neum en musique avec ce rapport étymologique à la fois du côté du pneuma, du signe et du pneuma, de l'esprit. Tu vois, est-ce que là aussi, ouais, il y a un rapport peut-être comme ça de tension qui est intéressant?
Alors oui, le souffle. Alors, bon, là, on revient au flux, hein, avec le pneum, le souffle. Hein, oui, on est dans cette figure comme ça, un peu que défend Platon souvent, hein, les Grecs anciens, hein, avec cette idée de la voix. Hein, ouais. La voix. Et la voix, le souffle, qui est évidemment plus près de l'esprit, quoi. Plus près de l'esprit parce qu'il y a cette intériorité et parce qu'il y a il y a cette chose qui surgit de l'intérieur de la personne, hein, et aussi cette espèce de comment dire, d'immédiateté, hein. Enfin, immédiateté. Alors là, on sent toute la complexité du truc parce que immédiateté, ça veut dire qu'il n'y a pas de média, qu'il n'y a pas de support, qu'il n'y a pas de médiation, alors qu'évidemment, la voix est par essence une médiation. le phénomène sonore, il n'existe que parce qu'il y a un appareil phonologique et une voix, mais c'est vrai que en tous les cas, les anciens, Platon en premier, ont pu opposer comme ça l'écriture à la voix, plus proche de l'âme, hein, ouais, c'est ça, plus proche de l'idée, quoi, hein, plus proche de l'idée vivante, hein, c'est-à-dire de l'idée en train de se construire.
Ouais, ouais, puis il y a quelque chose d'assez inextricable aussi qu'on retrouve dans le nœud gordien, parce qu'effectivement, trancher le nœud gordien, je lis ce petit paragraphe qui est issu du dictionnaire des proverbes, simplement pour que les oreilles qui nous écoutent puissent avoir un peu des débouchages comme ça, un peu des débouchés de sens. Donc, nœud, trancher le nœud gordien, donc ça c'est issu du dictionnaire des proverbes, se tirer par une mesure vigoureuse et prompte d'une difficulté embarrassante, Donc ça, par exemple, on connaît, nous, à la radio, quand on a, il nous reste un peu des creux à remplir, ben on tranche des nœuds gordiens. Gordias, père du roi Midas, avait un chariot dont le joug était attaché au timon par un lien fait d'écorce de cornouiller, et tellement entrelacé qu'on ne pouvait en découvrir ni le commencement ni la fin. Ce lien inextricable s'appelle le nœud gordien ou nœud de Gordius. Il était religieusement conservé à Gordium en Phrygie, dans le temple de Jupiter, et un oracle promettait l'empire de l'Asie à celui qui viendrait à bout de le dénouer. Alexandre le Grand, s'étant rendu maître de Gordium, voulut prouver que le succès d'une telle entreprise lui était réservé. Il fit plusieurs tentatives pour délier le nœud mystérieux, mais voyant que son adresse serait en défaut et craignant que ses soldats ne s'en tirassent n'en tirasse un mauvais présage, il prit le parti de le trancher avec son épée, et par ce moyen, dit quinte curse, il éluda ou accomplit l'oracle. Du coup, voilà le caractère sans début ni fin du nœud gordien.
Ouais. Alors moi, ça me renvoie à nouveau sur Lacan, là, que j'avais un peu évoqué maladroitement tout à l'heure, là, avec ça me revient un peu là, les trois dimensions, hein, qui sont nouées comme ça dans la perception, c'est-à-dire à la fois la lecture et l'écriture, hein, avec le réel, le symbolique, et puis l'imaginaire, si je me trompe pas. Hein. Et à un moment, il y a un moment où Lacan a toute une théorie comme ça des nœuds. Hein, et pour essayer de représenter, à la fois de représenter justement ce rapport comme ça qu'on peut avoir au réel, entre donc le réel qui serait un lieu inaccessible. Hein, ouais. Qu'on éprouverait peut-être que dans peut-être le plaisir sexuel ou des choses comme ça, hein, donc dans le qu'on toucherait, qu'on aborderait à des moments, et puis ensuite l'imaginaire, c'est-à-dire les représentations réflexives visuelles, quoi, mais qui touchent en quelque sorte, hein, qui est avec une dimension peut-être de alors oui, enfin avec une dimension un peu complexe, à la fois distante, parce que la vision c'est la distance, mais en même temps avec une ressemblance, avec quelque chose qui est comme ça de l'ordre quand même de la proximité, et puis le symbole, c'est-à-dire en grec, hein, le symbolon, c'est-à-dire ce qui est jeté avec, c'est-à-dire une sorte de pari, quoi, hein, voilà, on parie sur le réel, on jette des choses avec les apparences du réel, tiens, ça devrait être ceci, ça devrait être cela, et donc
un coup de dé
ah oui qui, tu sais qu'il paraît que Pichette avait changé la phrase. La phrase initiale, il disait « Un coup de doigt, jamais n'abolira le falzar. » Bon, voilà, bon, c'est une pardon pour cette dite. Oui. Henri Pichette.
Oui, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que Mallarmé, on va y revenir, parce on va parler donc dans la seconde partie de l'émission, on va avoir un invité dans quelques minutes, on parlera de vers, donc d'une crise de vers. Donc une crise de vers qui du coup nous amènera à Mallarmé. Donc c'est une jolie promesse. Un autre élément que je trouvais aussi assez intéressant, on l'a un peu évoqué, mais je trouve assez fascinant, c'est la question de la question plus de qui sera abordée dans la deuxième émission qui vient après nous, c'est la question du Big Bang, en tout cas la question quantique. Parce que, ouais. Voilà, théorie des cordes, on dit souvent, oui, vous êtes dans l'entre-soi, l'entre-nous. Moi, ce qui m'intéresse, ouais. Là, c'est l'entre-nœud aussi. du coup, de voir comment... je tombais sur une théorie que je ne comprends pas complètement, qui est cette idée de l'univers hyperbolique. Et là, ouais. Parce que voilà, on s'intéresse aussi à tout ce qui est hyper beau. Du coup, ouais. Voilà, les représentations de points carrés du disque hyperbolique, la question... du monde quantique avec voilà les images que l'on connaît de ce chat Schrödinger, etc. Est-ce que là aussi tu trouves qu'il y a quelque chose à lier entre le nevers, nœud et quantique et monde quantique?
Alors, je t'avoue que bon, à part à vrai dire, à part le chat de Schrödinger, donc et cette dimension presque musicale à un moment de notre réalité atomique, quoi, c'est-à-dire une fréquence, quoi, donc qui est partout à la fois, en quelque sorte. Je connais vraiment de tellement loin que j'ai un peu honte d'essayer de dire quoi que ce soit, à part le rapport entre la gravité, le temps, bon, c'est des choses. voilà, que je vois de très loin, quoi. Hein. Moi, ce que j'aime bien dans l'hyperbole, par contre, c'est bon, on connaît la figure de rhétorique, hein, l'exagération, comme ça. Mais bol, c'est en fait jeter, quoi. Hein. C'est baleine, hein, c'est comme bolonne, hein, tout à l'heure dans le symbole, quoi. C'est le même bol, quoi.
Oui.
C'est la même soupe primordiale, si on veut dire. Bon, mais hyper, c'est au-delà, quoi. Donc l'hyperbole, ce serait l'idée de jeter au-delà, quoi. Bon, et voilà, c'est je pense que c'est un peu tout ce que je peux dire d'un peu sérieux sur cette question.
Non, mais c'est vraiment... ça, c'est les dimensions multiples, en fait, c'est des questions de projection, hein. Voilà, c'est des projections, et en fait, d'ailleurs, quand on représente dans l'hypothèse de Malda-Sena les rapports de pluridimensionnalité de l'espace-temps, ah ben, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un bol, et dedans, il y a le trou noir, c'est un peu comme une espèce de soupe avec des espèces de boules à l'intérieur. Mais ce qui est fascinant dans le disque hyperbolique, c'est aussi voilà, cette dimension absolument fractale, absolument de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et d'une sorte de vibration comme ça, un peu éternelle, une sorte de plein champ, si on veut revenir aussi à la dimension musicale. Et du plein et du chant du chant cogne ou du chant ou du chant
du chant qui cogne oui
bon, attends, du chant qui cogne donc là oui, oui, voilà oui. Un petit tour sur la question de la question du nœud ouais. Et puis après donc bon on n'a pas parlé du noème, enfin on a parlé un tout petit peu de la musique, on a parlé un peu d'Aristote aussi. Est-ce que toi t'avais d'autres choses à évoquer par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant cette question de...
Bah moi quand tu me parles de cette théorie là comme ça de cette théorie physique un peu là, hein, ouais. un peu de projection quoi avec les théories des cordes, il y a aussi et puisqu'on parle de verre, hein, bon évidemment nous on a ce vieux centrement de l'univers, hein, bon donc un très gros verre si mais un seul quoi, et du multivers, hein, et le multivers qui serait donc un endroit où il y aurait plein de verres, bon ça grouille un peu quoi. Et en tous les cas voilà l'idée qu'il y aurait plusieurs mondes, et évidemment moi ça me renvoie à toutes ces choses. C'est vrai qu'en ce moment là avec ces histoires de virus, on est un peu dans une sorte de science-fiction, voilà, hein, un monde de science, enfin, où on se rend compte au fond que le monde c'est de la science-fiction, c'est des représentations, c'est des constructions. Et du coup, ça me renvoie un peu à toutes ces histoires de mondes parallèles, quoi. Hein,
ouais.
Et donc le multivers, c'est aussi. C'est aussi à un moment, il y a quelque chose de miroitant, quoi. Hein, c'est un peu le palais des glaces. Le Crystal Maze pour faire plaisir à Catherine, Jérôme, et alors moi là du coup il y a aussi une notion du verre dont on n'a pas parlé et j'aimerais en parler avec un petit extrait là encore.
Oui, vas-y.
Je lance un truc et c'est parti.
En voix. Attachons-nous maintenant aux façons dont on l'a défini dans le passé de nos civilisations occidentales. Cette définition fut obtenue longtemps, de façon claire et sans inquiétude, par recours à la catégorie de la forme. La poésie, ou disons plutôt le poème, ont été alors caractérisés comme l'emploi des mots qui se plient non seulement à l'intention signifiante, mais à des règles qui leur imposent des formes. On remarquait que des accents donnent relief dans les mots à certaines syllabes aux dépens d'autres. On comptait ces accents. On prenait conscience de la structure formelle que constituait un nombre bien défini d'entre eux, se présentant de façon suivie. On appelait vers la séquence de mots qui prenait fin quand ce nombre était atteint, après quoi un léger suspens de la voix ou le passage à la ligne, dans le cas d'un poème écrit, montrait qu'on revenait au point d'origine, ou de façon plus ou moins consciente, on recommencerait à entendre se déployer la forme première, décider la règle du cas présent. Forme de 5 ou 6 accents, de 5 ou 6 pieds, souvent, forme imprimée dans la parole et lui imposant ce retournement sur soi que dit bien le mot « vert ».
Alors voilà, moi ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette, alors c'est Yves Bonnefoy, hein. C'est Yves Bonnefoy en 2001 qui nous parle de poésie et donc qui nous parle de poésie à l'ancienne, hein, c'est-à-dire de poésie. Tous. De poésie, voilà, oui, c'est ça, de poésie métrique, hein, justement, une bonne foi, c'est-à-dire, les, voilà, la bonne forme, hein, c'est la good forme, good form, si on veut. En tous les cas, avec l'idée que c'est un truc dont, enfin, moi j'ai pris conscience en l'écoutant, c'est effectivement le vers, c'est le verso. Le vers, c'est quelque chose qui se retourne. Hein, le vers c'est la volte, hein, et alors en réfléchissant à ça, c'est assez drôle parce que il y a plein de formes comme ça, donc de réflexion, hein. C'est-à-dire le vers c'est donc la réflexion du texte sur lui-même, hein, c'est un texte qui revient sur lui-même,
donc c'est en fait c'est un nœud gordien.
C'est une forme, ouais, tu as raison, c'est une forme de nœud, et c'est une forme aussi de volte, hein, dar una volta, comme ça en italien, donc une fois, c'est une fois en fait, la volta en italien, donc une fois, donc quand il se passe quelque chose, c'est la volta, c'est le retour, hein, il y a une espèce d'éternel retour, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion, et alors, moi, il y a tout, ça part en réflexion, et c'est, par exemple, je m'aperçois aussi que la volte, c'est aussi, et que surtout quand elle revient, c'est aussi la révolte. C'est aussi la révolution, hein, voilà. Et donc il y a des la révolte, la révolution, le vers au fond, ce serait une façon pour le langage de revenir sur lui-même, mais en se transformant.
En ouais, se, donc en le regardant vers à moitié vide ou à moitié plein.
Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça, le verso aussi, hein, évidemment, hein, le recto verso, voilà. Et ça me plaît. Au fond, le retour du vers, le revers. Alors ça, c'est encore, ça va te plaire. C'est du tennis, hein, voilà. Le revers, eh bien, c'est quelque chose qui a quelque chose avec la révolution, avec la négation. Alors là, peut-être c'est un lien avec ce que je disais tout à l'heure, hein, avec le nœud. Hein, le lien du nœud et du vers, ce serait peut-être cette idée d'un retour, mais qui serait une négation, qui serait
comme s'il y aurait le revers d'un côté, donc côté revers, et le coup droit, ce serait le nevers.
Si tu veux, ouais. Ou plutôt, l'alliance du coup droit et du revers, ce serait le nevers. C'est-à-dire ce qui lirait les vers.
Ah, hein, je crois qu'on a vraiment...
Ce qui lirait les versions, voilà. Les versions aussi, c'est un beau mot, ça, version, tu vois. Enfin, l'idée le vers, c'est aussi ce qui est de l'ordre de la traduction, quoi, hein. Et avec toute l'étrangeté, au fond, de ce retour, quoi, hein. Ouais. Voilà.
Là déjà on a des éléments vraiment très 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 logiques et très très sensibles sur lesquels on peut s'appuyer, et je propose, du coup, on a la chance aujourd'hui ce matin de pouvoir inviter des spécialistes, et en l'occurrence un spécialiste de la spécialiste du vers, un spécialiste de la versification, un entomologiste ami. Et donc on va lancer un petit jingle qui est en fait la lecture d'un chant, d'un appel au vers par Bob Cobbing. Et pendant ce temps, on va établir le lien avec cet invité. Donc on lance le jingle. C'est la beauté.
Non,
C'est Bob Cumming.
Bob Cumming, oui, c'est ça.
C'est Cumming, c'est pas Cumming.
Du coup, est-ce que je peux demander un retour micro? Et donc, on a Olivier Lebrun avec nous.
Exactement.
Quelle joie.
En fait, j'étais saisi par vos paroles parce que je suis verso, quoi.
Ah.
Ah, moi aussi. Moi aussi.
Et je me disais qu'on allait être entre verre à soi, en fait, ce matin, parce que vous parliez de ça, de l'entre soi, de l'entre nous. Donc Thierry, bonjour, comment tu vas?
Eh ben, ça va très bien. Moi, je pense plutôt qu'on est entre verre à nous. Et le nevers, et du coup, c'est vraiment c'est central, quoi. C'est joli.
Entre nœuds aussi, on peut être entre nœuds. Mais le rapport au tennis était formidable, Alex. Je pense que tu as.
Non. Ah non, mais moi, j'ai vibré. C'était vraiment vibrant comme anecdote. Et moi, la première question, parce qu'en fait, pour contextualiser un tout petit peu, je trouve que c'est assez. Ce qui est assez important, c'est au fond, pourquoi les verres? Pourquoi est-ce que aussi les verres et les livres? C'est un problème qu'on a, nous aussi, avec le projet Bibliomania, c'est que les verres ont tendance à manger les livres. Alors, une première question pour toi, Olivier. Alors, pourquoi est-ce que les verres mangent les livres?
Je pense que c'est appétissant, en fait. Et puis, je ne sais pas si la faculté des verres à vivre dans le noir leur permet tout le temps de lire ou de voir les livres. Mais je pense que les dévorer est déjà une première approche aussi sensible. Et je dirais que dans les temps qui courent, on aimerait tous pouvoir lire et regarder des livres, mais peut-être qu'on devient un peu des bêtes d'appartement les dévorant, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai une famille de lombriques et on passe pas mal de temps à dévorer des livres. Et d'ailleurs, j'en regardais deux hier qui étaient vraiment en train de manger des livres et c'était assez beau. Voilà, elles ne sont pas encore en âge de les lire, mais elles les mangent. Et je pense que ça nous ramène peut-être à nos instincts primitifs. De comme ça, regarder des objets, de les dévorer, et d'avoir cette sensation de se les accaparer d'une manière ou d'une autre. Enfin, en tout cas, c'est. Je ne sais pas, Alex, c'est aussi pour ça qu'on fait du tennis, toi et moi. C'est une passion un peu dévorante. Il y a quelque chose de très gourmand dans le fait de dévorer des livres, non ?
Ouais, manger des livres, il y a cette très, très belle affiche là, de Gérard Philippe qui nous enjoint à manger ses livres.
Alors,
je me demande si Thierry aussi, connaissant la bibliothèque de Thierry, j'ai l'impression qu'il dévore un peu quand même.
Ouais, mais moi, c'est parce que je réponds en fait à l'Ancien Testament. Si je lis livre, quand tu essayes le chapitre 3, versets 1 à 4, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvre la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne, je le mangeai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Alors, c'est pas beau?
Merci Thierry.
Ouais, il faut presque le chanter. Alors peut-être à rajouter une corde ou des cordes, oui. à ce nœud musical.
Exactement. Bah, je n'ai pas de dispositif musical à portée de main, mais je ne sais pas, Alex, si tu as. Parce que ce qui m'intéresse aussi, et c'est ce rapport très anglophone au vers qui devient worm, le worm devient des words deviennent des works, des works sont quelque chose que l'on peut worm, porter. Tu vois, il y a toute cette. Tout son lexical qui étant finalement le lombric hein, d'une manière très très horizontale
et mais, tout ça n'étant pas si easy.
Non, exactement, ce n'est pas si easy, mais je sais que cette malice, quand Will Holder avec F.R. David rappelle que les words ne viennent pas si facilement, c'est vrai que nous, avec Bibliomania, on rappelle que les worms ne viennent pas si facilement, en fait. Et ouais. Je pense que c'est peut-être pas l'appel là textuel que l'appel de l'objet qu'on cherche à faire. J'aime beaucoup moi ces parallèles-là. Je te parlais de Rihanna aussi avec ce fameux hit work 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 work. Je pense que ça marche très bien avec worm 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 worm. Ça marche très bien avec word 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 word. Peut-être une suite pour Will Holder d'ailleurs, je sais pas. Mais... Voilà.
C'est l'idée du lombrique aussi. Le mot lombrique est assez assez beau, le nombril et le lombric qui ont tendance à se connecter dans le wormhole aussi du jardin.
Imagine ce lien entre poésie concrète et lombric. Tu vois, la relation entre concrète et brique, ce truc d'architecture, je trouve que c'est formidable quand on y pense.
Bah, ça, à l'ombre de l'arbre.
Exact.
Bah, à l'ombre de la tour, plutôt, parce que là, moi, quand vous parlez de briques et de mots, je ne peux pas ne pas penser à Babel, hein. Ouais, et à ce parallèle évident qui est fait entre la construction de la tour et la construction des langues. Hein, la langue comme une longue brique, hein, ou un long tas de briques. Il y a plusieurs histoires. Hein. Il y a Amphion, je crois.
Comme Moïse ouvrant ma mère en deux ce matin. Pas ma mère maternelle, mais ma mère intellectuelle. Tu vois, t'es vraiment là en train, t'es sur ton rocher, tu fais des gestes, t'ouvres les bras et la mère s'ouvre en deux, c'est magnifique.
Bah, et d'ailleurs, est-ce que une brique, ça veut pas dire aussi. N'a pas à voir avec le.
Ah, bah si, bah évidemment. Voilà. Puis d'ailleurs, une pensée pour Faudel, je crois. Hein. Oui. Ah non, c'était pas lui. Tellement neubrique, c'était pas Faudel, je crois pas. Non. Je sais plus qui chantait Tellement neubrique, mais c'était très joli comme chanson.
Parce que là aussi, il y a un rapport comme ça d'amour très. Enfin, d'amour. Et,
ah ouais.
Enfin, il y a. Je trouve que.
Il y a lubrique aussi.
Le.
Lubrique.
Lubrique. Oui, et du coup, le lu dans le
lubrique. Stan la lubrique, ouais.
Et effectivement, dans le lubrique, il y a le brique de ce qui est lu. Et donc, on revient à cet endroit-là, vers la lecture.
Oui, bah, en fait, voilà. Comme quoi, c'était des lectures dévorantes, tout ça, peut-être.
Et alors,
dévorer des lectures.
Tout à l'heure, avant qu'on soit avec toi au téléphone, on avait mis la possibilité, donc, dans le rapport au nœud, d'un coup de dé, comme ça, dans la négation du nœud, de tenter d'émettre un coup de dé. Et on avait évoqué, Mallarmé par rapport à ça. Et évidemment, il y a un autre moment qu'identifie Mallarmé, que je trouve intéressant à mettre en lumière ce matin, c'est la crise de verre. Et peut-être effectivement cette question de savoir pourquoi est-ce que les vers mangent les livres, ça nous amène peut-être cette idée qu'il y a une crise de vers. Et donc je voulais simplement vous lire rapidement un passage, et peut-être on peut essayer de trouver des réponses. Je vais récupérer le passage en question. Alors voilà, le ver, je crois, avec respect, attendit que le géant qu'il identifiait à sa main tenace et plus ferme, toujours de forgeron, vint à manquer pour lui se rompre. Toute la langue, ajustée à la métrique, y recouvrant ses coupes vitales, s'évade selon une libre disjonction aux mille éléments simples, et je l'indiquerai pas sans similitude avec la multiplicité des cris d'une orchestration qui reste verbale. Donc enfin là, c'est la crise de vers chez Mallarmé, c'est que le vers, il rompt, quoi, il casse. Et du coup, ouais. Qu'est-ce qui se passe si... alors, est-ce qu'il a trop mangé de livres, par exemple?
Je pense que c'est le vers, mais casse, je vois le vers un peu comme la queue du lézard, moi, c'est-à-dire il casse jamais, non? Si.
Bah, le vers, il casse, mais il revient aussi. C'est un peu la queue du lézard, c'est très joli, parce qu'effectivement, ça casse, mais ça revient à son essence, à sa vérité, à ce qu'il a toujours été, quoi.
Et puis en plus, ça dépend si c'est un verre à pied ou pas. Enfin, c'est là où
ça. C'est vrai, tu as raison. Il y a des verres à pied qui cachent, j'en ai vu, j'en ai connu.
Il y a des véritables.
C'est vrai, des véritables verres à pied.
Et donc, si on est. Alors, du coup, si le véritable est à table, donc il y a cette idée de table et de partage, alors, du coup, peut-être ce que sous-tend Mallarmé dans cette idée que le verre rompt, c'est. Le verre, il est rompu parce qu'en fait, il est partagé.
Oui. Ouais.
Il est partagé à table avec des convives.
Francis Ponge, par exemple.
C'est ça, avec Francis Ponge, avec les oiseaux de Louise également.
Oui.
Avec, y a tout un comme ça une prolifération à plein de niveaux au niveau narratif, au niveau animalier aussi.
Et le rond d'ailleurs.
Je revois à nouveau Thierry en Moïse avec sa canne un peu, mais bon, faut que je mode cette image de la tête. Je sais pas pourquoi ouvrant les mers comme mais ça. Moi... Mais parce qu'il il a parlé du testament. Je suis resté sur ça.
Le vert rond, c'est aussi le rond. C'est la figure de la partition aussi. Hein. C'est la communauté, quoi. C'est joli aussi.
L'entrevers à soi.
C'est ça. Ouais.
Du coup, alors là, on arrive sur une dernière, effectivement, sur une dernière hypothèse par rapport au vert, c'est la destination. En fait, on est parti. Ouais. D'une forme de négation avec le nœud et ensuite on s'oriente du coup le vers. Alors la question qu'on peut poser pour ouvrir aussi maintenant qu'on s'approche de la fin de l'émission, c'est mais vers où?
Alors c'est vrai que cette idée de vers, c'est-à-dire de direction, moi ça me touche et ça me rappelle ce que dit Agamben de l'homme contemporain qui regarde vers le sombre. C'est-à-dire il est face au ciel la nuit et au lieu de regarder les constellations, c'est-à-dire les figures, c'est-à-dire ce qui relief, il regarde dans l'ombre, dans l'obscurité, pour voir la lumière il y a Agamben des astres qui, avec la dilatation de l'univers, s'éloignent trop vite de lui pour que leur lumière puisse lui parvenir.
Ah oui, donc il y a ce rapport de distance et de l'historien qui est comme un astronome aussi, au fond, et qui en fait regarde de la lumière ancienne qui lui parvient.
Oui, mais la lumière ancienne qui serait la plus grande contemporanéité, quoi. La plus grande actualité. Et surtout celle qui ne lui parvient pas.
C'est comme cet âge de couleur que l'on aperçoit dans le noir, un peu.
Ah, donc une
Huygengrau.
Peut-être un vert luisant ou un vert luisant.
Huygengrau.
Le mot est dit.
Non, mais
c'est bon, évidemment.
Les données sont là, hein, clairement, avec. Avec
c'est vrai que c'est le ver lisant, ouais. Ça, c'est
avec la forme du ver lisant qui est le ver historique, en fait. Voilà. Et puis aussi, avec une chose aussi étrange, c'est. On revient à l'école de Francfort. Alors ça, c'est un espèce de détour qui ne doit rien aux nœuds gordiens. C'est le fait que il y a l'ange de l'histoire de Walter Benjamin. Et du coup, chose assez étonnante, c'est que du coup, cet ange de l'histoire dans la représentation de Paul Klee, qui nous donne aussi des clés pour la lecture, c'est l'ange qui est absorbé comme ça vers le mouvement du temps qui est inexorable. Et en même temps, il est tourné, du coup, il regarde un peu ce qui fait écho au sombre d'Agamben que tu évoques. Et du coup, il y a aussi peut-être un rapport assez intéressant entre l'ange et le mange.
Bah oui.
Ah, le mange de l'histoire.
Et le lange aussi. Enfin, pardon, c'est mes préoccupations.
Les langes de l'histoire. Bah, c'est sûr qu'il regarde les langes de l'histoire, parce qu'il regarde les ruines.
Ouais.
Hein, et il est happé par la puissance de la modernité. Et si je me rappelle bien, il y a une histoire de révolution aussi, non?
Oui, bah c'est clairement plus ou moins industrieuse cette révolution-là, mais elle est présente. Mais il y a quand même un produit en croix.
C'est là que ça m'intéresse, parce que j'y pensais aussi avant qu'on s'appelle, sur le verre industriel qui est celui de Saint-Étienne, par exemple.
Oh, ah, c'est bon, magnifique.
Les verres.
Les verres, évidemment. Il y avait une blague comme ça sur les cimetières. Oh, il fallait dire allez.
Voilà, une équipe de foot assez formidable quand même. Enfin, c'est pas pour. Mais comme on parlait d'industrie, je pense à Saint-Étienne, les Verts.
Oui, non, mais c'est vrai qu'à cet endroit-là, tout d'un coup, je vois une équipe de Verts en train de jouer au ballon. Et là, il y a un rapport d'échelle qui est quand même assez incroyable.
Les Verts à pied, quoi. Je veux dire, c'est évident.
Là, c'est quand même une image qui peut évoquer aussi des problématiques universelles ou multiverselles évoquées par rapport au quantique, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, toutes les échelles se sont un peu aplaties et coexistent dans des dimensionnalités absolument multiples. Et le ballon, effectivement, le ballon, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'atome ? Est-ce que c'est la planète ? Est-ce que c'est qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce ballon ? Parce que par exemple, à Nevers, le ballon, alors ça c'est bizarre parce qu'à Nevers, c'est plutôt connu comme une ville de rugby, le Nevers.
C'est vrai que le ballon il est ovale, mais en pensant au verre et au ballon, je pense évidemment à la coiffure de Gérard Janvion.
Je pense à un verre coiffé avec cette coiffure-là. Il faudrait dans cette émission une sorte de cartooniste, vous voyez, comme il y a dans certains trucs à la télé, par exemple. Il faudrait quelqu'un qui dessine en direct les idées, ça serait assez beau aussi. Moi, je n'ai pas ce talent-là. Ouais. Mais en fait, je pensais aussi à l'apéritif que vous aviez fait avec Thomas Bizzari. Je pense qu'il serait très, très fort pour parler des verres. C'est une passion chez lui.
Non, mais c'est absolument vertigineux, en fait, ce qu'on est en train de vivre.
Ouais, bah, totalement. Tu veux dire des vers à tiges, en fait.
Des vers à tiges, parce que d'un côté, il y a quand même le rapport entre un ver, par exemple, un ver de vin, c'est un ballon. Donc, du coup, déjà, il y a un glissement qui est assez dingue à cet endroit-là. Et c'est comme si, finalement, aussi bien la forme des mots que le sens venait à se retrouver, effectivement, dans cette tige-là qui est... qui est l'entre-nœud, en fait.
Comme tu le dis, vertigineux, mais je crois que le verre est partout, en fait.
Mais ce qui est beau aussi, c'est que le ballon...
Je ne veux pas créer de propos un peu polémiques, mais je pense que le verre est partout.
Thierry, qu'est-ce que...
Moi, ce qui me plaît aussi, c'est que le ballon de vin, le ballon du verre à vin, en fait, il est là aussi pour qu'on se sente en même temps qu'on goûte. Et donc c'est aussi une espèce de nœud des perceptions, quoi.
Et puis le ballon du devin, c'est aussi la boule. C'est la boule dans laquelle on voit l'avenir. Donc on est pas très très loin là non plus de la prophétie et de l'orientation vers où. Et ben peut-être c'est en passant par cette réflexion qui nous conduit du vers au ballon et du vers de vin. Au verre du devin qui est le ballon le ballon divinatoire.
Mais alors là par contre moi je vois autre chose, c'est parce que le verre c'est aussi la couleur du pré, c'est-à-dire du lieu où se passent les duels, où se passent tout un tas de d'éléments qui ont trait à la définition, du moins qui vont changer l'ordre des choses. Et là, moi, je pars plutôt vers la question du temple, c'est-à-dire de ce qui étymologiquement est découpé. C'est-à-dire le pré, c'est ce qui est découpé dans la forêt, quoi. Et là, précisément, tu sais que Temno, c'est ce que fait précisément la ruspice étrusque. Et c'est là qu'il regarde le passage des oiseaux. Et donc il y a dans ce pré, dans cette chose découpée, quelque chose qui a à voir évidemment avec la divination, avec le sens, avec le sens, avec le flux de des choses, quoi.
Ouais, du pré au loin, ouais.
Mais c'est pareil, je pensais de pré, le champ, du coup le champ littéraire, le champ culturel, le champ.
Le champ cogne.
Le chemin, évidemment. Évidemment. Le chant. Est-ce que je peux chanter d'ailleurs ?
Allez.
J'y vais, j'essaye.
Vas-y.
Allez.
Worms, worms don't come easy to me. Oh, can I find a way to make you see how much I love you. C'est pour toi, Thierry.
C'est beau, hein.
C'est en, plus, c'est en plus, c'est a cappella, c'est-à-dire que c'est même sans Fabien Capello en plus. À côté.
Non, il est loin de nous, mais on pense beaucoup à lui. Moi, j'ai passé du temps à Nevers avec Fabien, Thierry, France, et je dois dire que c'était des temps suspendus, mais pas confinés, des temps très suspendus. C'était beau.
C'était bon, surtout, parce qu'il c'est un grand cuisinier.
Incroyable. C'était bon. Des omelettes à la sauge. Oh,
voilà, ça c'était très bien. Ouais,
on pourrait d'ailleurs solliciter Fabien, même s'il est sur un fuseau horaire décalé, mais peut-être pour livrer quelques recettes ici.
Ou même pourrait faire l'objet d'une émission. Hein. Enfin, Fabien Capello pourrait être l'objet.
Maître Capello, Maître Chancogne. Enfin, je veux dire, on pourrait réunir.
Non, c'est la fable. C'est une vraie fable, cette émission. C'est le sens de cette investigation, parce qu'il y a toujours des noms sous les noms. Et sous les chapeaux aussi, puisque Capello, il y a une logique chapelure à cet endroit-là.
Une logique capitale.
Exactement, et puis tu parlais aussi, je pense que l'émission peut être coagulante, et je lisais des choses sur ce qu'on on prend en ce moment sur les protéines de ver marin pour essayer de trouver des traitements. Oui. Donc je pense que le ver, l'émission coagulante, il y a beaucoup de choses qui sont du temps.
Ouais. Et le ver marin, enfin du coup sur ces vers marins là, moi je vous suis très reconnaissant. C'est le moment aussi de vous remercier parce que vous êtes vraiment des vers marrants et je suis heureux de faire cette émission avec vous.
Merci pour l'invitation. Enfin, puis j'entends Thierry par ton oreille, Alex, que je sais un peu grande et plastifiée parfois. Et ça me fait beaucoup plaisir.
L'oreille est luisante, bah moins aussi. Comme le verre est luisant. Et du coup, mais en tout cas, merci beaucoup, Olivier, de nous avoir vraiment aidé à comprendre un peu Nevers, parce que tout le monde essaie aussi, enfin, beaucoup de gens peut-être essaient de comprendre Nevers, et du coup, on y arrive un peu mieux grâce à ton intervention.
Je vous remercie et je vous embrasse.
Bisous.
Bisous. Tendrement. Tendrement.
Voilà, là on a quand même bénéficié d'une analyse assez assez poussée, je pense, et d'un feedback assez assez important sur au-delà de l'écho, hein, le feedback, parce qu'effectivement il doit y avoir un peu d'écho là ce matin, mais on sait un peu mieux où on s'oriente du nœud de cette négation là vers quelque chose, voilà.
Ouais. Je pense que c'est le cette émission.
C'est pas mal. On commence à voir un peu le. On commence à voir des hypothèses. On voit le bout de la corde. Enfin, on voit des nœuds qui se délient. Du coup, semaine prochaine, on continue.
Allez. Alors, c'est quoi cette fois?
Eh ben écoute, il y a deux hypothèses. Moi, il y a plein d'émissions possibles, mais il y avait tout d'un coup, j'aime bien parce que ça émerge en fait d'une émission sur l'autre. En fait, ça émerge dans l'émission. Et du coup, Capello, je trouve ça plutôt chouette. Hein.
Ah ouais. Ouais. Adorno, c'est bien aussi, mais Capello, c'est bien, d'accord.
Capello, Adorno, et puis ensuite il y avait Solbass aussi qu'on pourra faire. Mais bon, voilà, c'est plein de petites hypothèses. On les prend dans quel ordre? On fait Capello?
Comme tu veux. Capello, allez, c'est parti.
Capello, superbe. Eh bien, écoute, merci Thierry. Moi, je vais...
Capello et chapeau bas.
Et
chapeau bas.
Quoi? Chapeau bas, bah oui, bien sûr. Bien sûr, chapeau bas. Et puis du coup, on va poursuivre du bas vers le big et le bang. Bas, big, bang, bim, bam, boum. Et du coup, on va poursuivre sur l'émission aussi qui traite des vers à sa manière. Et en tout cas, un grand, grand bisou et merci de jouer avec nous comme tu le fais. Et puis, on se voit la semaine prochaine. On parle la semaine prochaine.
Avec joie.
Avec joie. cuore un senso a turbettine lume sole lume un sole sa se crepine ci perdo tu de mine lume sole lume poate Lume, soră lume.